la langue française vue d'ailleurs. Point de vue, Daniel Biaoula. Daniel Biaoula est né à Brazzaville, au Congo, en 1953. Après son départ pour la France afin d'y suivre des études de biologie, il choisit finalement de s'installer à Paris pour écrire. Il est l'auteur de plusieurs romans en français, parus aux éditions Présence africaine, Le destin de Zou et L'impasse, qui lui a valu le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 1997. Son dernier ouvrage, Agonie, paru un an plus tard, met en scène la communauté africaine de France, ses contradictions et les étapes difficiles de son intégration. Daniel Biaoula.
Il y a des choses spécifiques dans la mesure où, très souvent, les gens qui viennent d'Afrique, bon, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une reformation de ce qu'on vit en Afrique, mais les enfants qui naissent ici ont une culture différente de leurs parents. Cela n'empêche pas que les parents leur apportent une partie de ce qu'ils sont. Donc, forcément, ça se retrouve un petit peu au niveau des jeunes qui sont là, même s'il y a une distance qui s'est établie entre eux et leur pays d'origine. Ils se disent quand même quelque part français et en même temps originaires de ces pays-là. Donc ça ne peut pas être effacé pour l'instant, je crois.
Malgré tout ce qu'on a pu constater, notamment cette image multicolore et multiraciale de la France pendant la Coupe du Monde de football 98, malgré tout ça, on a toujours le sentiment que la mixité dérange.
La mixité dérange parce que pour arriver à regarder l'autre comme soi, comme son semblable, bon, il faut quand même... un travail de fond, d'éducation, voyez-vous. Même si très souvent les gens se côtoient dans certaines sphères, il n'empêche que pour la masse, c'est un peu plus difficile. Parce qu'il y a le travail de fond qui n'est pas fait. J'ai vu au moment de la Coupe du Monde, en France, tout le monde était content. Et malheureusement, ce genre d'événements qui sont plutôt fédérateurs, qui amènent les gens à se regarder comme des frères, n'existent pas souvent, malheureusement.
C'est vrai qu'il y a des difficultés, des confrontations, mais selon vous, quels sont les facteurs déterminants pour faire évoluer tout cela?
Je pense que le facteur qui pourrait faire évoluer les choses, c'est juste la connaissance de l'autre, hein. Une connaissance vraie, et en même temps une connaissance de l'histoire. Mais je crois que s'il y avait un échange réel, une connaissance réelle aussi de tout ce qui s'est passé, les choses évolueraient beaucoup plus facilement. Tout ce que l'histoire a suscité au niveau des gens est toujours présent. Je vois que le noir, par exemple, n'a pas encore dépassé tout ce qui s'est passé au moment de l'esclavage ni au moment de la colonisation. Dans l'inconscient, ça existe toujours et les amertumes sont toujours là. Et du côté européen, le blanc, je pense aussi qu'il ne veut pas regarder cette histoire. Ce qui fait qu'on se trouve confronté à des non-dits, à des situations qui sont là, qui sont historiques, dont les gens actuels ne sont pas responsables en tant que tels, mais qu'ils ne veulent pas regarder parce que ça les dérange. Je pense que tant qu'on n'arrivera pas là, c'est-à-dire à regarder les choses en face, à mettre carte sur table, eh bien la situation va perdurer.
C'est une histoire, toi, pas comme les autres. Je t'aime, mais je t'aime d'espoir. Dans la bonne parole, je les apporte. Parfois, ce que je pense, nous de tous, ça vient. Et pour ça, c'est trop simple, notre jour. Mais avant, on découvrira ce qu'il a déjà. On va la mourir, je ne peux pas comprendre. Quand je t'en découvrir, je pense c'est apprendre. On va la mourir, mais je ne peux pas comprendre. Quand je t'en découvrir, je pense c'est apprendre. On va la mourir, mais je ne peux pas comprendre. Quand je t'en découvrir, je pense c'est apprendre.
Pour Daniel Biaoula, la langue française fait tout simplement partie de la réalité africaine. Cela ne l'a pas empêché cependant de façonner son œuvre à la dimension très orale de sa terre natale, le Congo, et de sa langue d'origine.
Je parle ma langue d'origine, c'est le Lari. C'est une langue du Congo qu'on parle dans la région du Poul et qui est parlée par la majorité de la population congolaise, qui n'est pas écrite jusqu'à présent en fait, qui n'est pas enseignée. Mes parents parlaient cette langue, mon père a été un peu à l'école, moi mais il ne parlait pas très bien le français. C'est surtout dans ce milieu où on parlait cette langue que j'ai grandi. J'ai été nourri de cette langue, si vous voulez. Et c'est par la suite que j'ai appris le français. Alors, si je n'avais pas été à l'école, certainement que je lui aurais échappé, puisque si vous voulez, j'ai grandi un petit peu en ville et en partie au village. Parce que je suis né à Brazzaville, que mes parents habitaient Brazzaville, mais j'ai été faire mes classes au village. J'aurais pu ne pas l'apprendre si mon père n'avait pas tenu à ce que j'aille à l'école.
Comment s'est passée cette rencontre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a paru naturel ou bien c'était un choc pour vous, un choc culturel, un choc linguistique tout simplement?
Il y avait toute une ambiance quand même. Hein. Même si je ne vivais pas dans un milieu où on parlait français, on avait autour de nous des gens qui étaient arrivés, ce qu'on appelait les évolués à ce moment-là, dans les années 50, qui étaient arrivés à des postes administratifs ou qui étaient médecins, qui étaient ingénieurs. Bon, il n'y en avait pas beaucoup parmi les Africains, mais il y en avait quand même. Ils nous servaient quelque part de modèle. Pour les parents, réussir, c'était apprendre la langue française, c'était aller à l'école. Je savais déjà ce que je voulais. Je voulais être ingénieur, par exemple. Pour être ingénieur, ben, il fallait aller à l'école et puis il fallait apprendre le français. Et donc, ça n'a pas été quelque chose de traumatisant en tant que tel d'aller à l'école. Mais le traumatisme venait peut-être des pratiques qu'il y avait à l'école. On avait le symbole que l'on donnait à celui qui parlait sa langue maternelle. Donc, il était interdit de parler la langue maternelle. Et le symbole était quelque chose d'assez humiliant. Pour moi, c'était comme si c'était un chemin qu'il fallait parcourir. Et bon, ben, j'étais à l'école et tout se faisait en français, donc il fallait que j'étudie le français.
Une fois que vous avez dépassé cette relation première d'obligation, quel a été votre regard sur cette langue? Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous?
C'est la langue dans laquelle j'ai baigné. Donc moi, je pense l'avoir intégrée. Elle ne m'est plus étrangère. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas écrire dans ma langue. C'est dans cette langue que j'ai le plus de facilité à écrire. Donc je l'utilise parce qu'elle est là, parce que c'est avec elle que j'ai vécu. Donc ça fait une trentaine d'années quand même que je suis dedans. Puisqu'il m'est venu l'idée d'écrire, la première chose que j'ai faite, peut-être par paresse, c'était de me dire, bon, mais c'est dans cette langue-là que je vais m'exprimer.
Quelles ont été vos découvertes dans la langue française?
Beaucoup de découvertes, je pense, dans la mesure où j'ai toujours lu. Bon, je suis quand même scientifique de formation, mais j'ai toujours lu depuis très très jeune. Je trouvais, du point de vue personnel, un intérêt à découvrir la langue française à travers des romans. Et quand je parlais de paresse tout à l'heure, en fait, c'était une paresse plutôt au niveau du choix. Et quant à la langue elle-même et mon style, je pense que les auteurs que j'ai lus m'ont influencé. Je pourrais par exemple parler pour les Français de Lautré Amant, je pourrais parler de Céline, Victor Hugo, je peux parler aussi de Césaire. Donc il y a un traitement assez particulier de la langue et ce traitement m'a plu et ce traitement était en accord un petit peu avec moi, ce que je ressentais. D'écriture, je ne peux écrire que si j'ai déjà la manière de raconter l'histoire. Parce que si je n'ai pas trouvé comment dire les choses, je n'écris pas. Quelquefois, je pense dans ma langue et il y a comme une maturation qui se fait de ce que je pense pour le mettre en français.
Lorsque vous faites ce travail par rapport à vos origines, votre langue maternelle, vous avez l'impression que la langue française se marie bien avec votre vécu, ce que vous voulez décrire, ou bien est-ce que ça résiste? Est-ce que c'est difficile de concilier les deux?
Qu'il y a une langue intérieure chez l'écrivain. Mais moi, j'utilise rarement les expressions de chez moi, sauf si je n'ai pas d'équivalent en français. Donc, je fais tout pour traduire, en fait, l'esprit africain, si je puis dire. Donc, l'oralité, quelque part. Il y a naturellement une symbiose qui s'opère, une harmonie qui s'opère, puisque je suis entier, je suppose. Donc, au moment où j'écris, tout est déjà mûr en moi et je n'ai pas de difficultés spéciales en écrivant en français. Je ne dis pas que ça se fait facilement, parce que de toute façon, le travail d'écriture est un travail de longue haleine, parce qu'il faut choisir les mots adéquats, il faut voir si les phrases qu'on écrit expriment exactement ce qu'on veut dire. Donc, à ce niveau-là, il y a toujours un travail, il y a un accouchement qui se fait parce que ce n'est pas facile. Mais j'arrive quand même à marier quelque part la langue française avec ce que je ressens. La langue intérieure dont je parlais tout à l'heure est aussi constituée par tout ce que je suis, par mon parcours, par mes expériences, par ma manière de voir la vie. Le fait d'écrire en français n'est pas une exclusivité. Donc j'aurais bien pu écrire dans ma langue, avec des difficultés différentes. Si je maîtrisais parfaitement l'anglais, il aurait été possible que j'écrive en anglais aussi. Donc en fait, ça vient de moi, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas conditionné par la langue. C'est moi qui me sers de la langue, je ne suis pas au service d'une langue.
Dans tout ce parcours d'expérience, de rencontre, de vécu dans la langue, j'entends, que vous avez connu, qu'est-ce que représente aujourd'hui la langue française pour vous?
Un moyen de communication, le moyen de me faire entendre par le plus grand nombre. Je vis avec, je sais de la travailler à ma manière, mais comme un moyen de communication, un moyen de dire ce que je pense. La meilleure des choses aurait été de créer une langue africaine et puis d'apprendre le français ou l'anglais comme toute langue internationale qui existe. Mais la situation, comme on peut la voir aujourd'hui, est telle que bon, c'est le français qui est là et donc on fait avec le français.
Avez-vous l'impression que c'est une langue qui vous appartient ou que cela reste une langue extérieure à laquelle vous recourez comme un outil ?
En tout cas, personnellement, pour moi, elle m'appartient puisque je m'en approprie, puisque je peux l'utiliser comme je veux. La preuve, c'est que j'écris des livres. En même temps, elle me reste quand même extérieure. Quand on regarde aussi la situation de la langue française dans le monde et sur le continent en particulier, on se rend compte qu'il y a une appropriation qui est faite par les Africains de cette langue française, puisqu'on trouve une manière de parler la langue française qui est différente à Brazza ou à Abidjan ou au Mali. Il y a des mots qui sont ajoutés, il y a des métaphores différentes, il y a une approche différente de la langue. C'est qu'elle est vivante, quoi. Donc il y a un dynamisme qui s'opère au niveau de la langue française qui vient du fait que les habitants des pays africains s'approprient cette langue et en font ce qu'ils veulent.
Et comment voyez-vous évoluer les langues en Afrique ?
Au Nigeria, il y a le Yoruba qui est écrit, étudié. Au Mali, il y a le Bambara, par exemple, qui est étudié. Pour l'instant, je crois que la langue française a une position dominante, mais pas par rapport à la population, parce que souvent, c'est 5 ou 10% de la population qui parle cette langue. Et ces 5 ou 10% essaient de l'utiliser comme ils l'entendent. L'apparition de plusieurs langues françaises devient une véritable gymnastique. Par exemple, quand on parle de Brazzaville, qu'on va à Yaoundé ou qu'on va à Abidjan, et dans les quartiers populaires, ça ressemble quelque part un petit peu à l'argot ici, par rapport à la langue française. Et cette évolution, apparemment, serait très très difficile à maîtriser, mais c'est pas plus mal, je pense.
Nakondo tata, nakondo mama, atizabiko. Kungani mabula, tumini panye, kewalosu.
Agonie, dernier roman de Daniel Biyaoula aux éditions Présence Africaine. L'auteur congolais doit publier cette année un nouvel ouvrage aux mêmes éditions.